avere shooting
desert. Dico della Radio France
Internazionale.
Accent du monde. Philippe Le Caplain.
Bonsoir et bienvenue dans Accent du Monde, ce soir avec, pour la rédaction hispanophone, Raphaël Moran.
Hola, buenas noches.
Pour l'arrestation d'une étudiante accusée de terrorisme par les autorités au Nicaragua. Pizemam, de la rédaction cambodgienne.
Sousnay Philippe.
À propos de la mort du pédiatre suisse Beat Richner, qui a fondé le plus grand hôpital pédiatrique donnant accès aux soins gratuitement. Et puis également avec Elcio Ramalho. De la rédaction brésilienne, pour faire un point sur la campagne électorale pour la présidentielle. Bonsoir à vous tous, mais avant tout cela, intéressons-nous au bras de fer qui oppose la Hongrie à l'Union européenne. En effet, pour la première fois dans l'histoire du Parlement européen, une majorité de députés ont demandé au Conseil européen d'ouvrir une procédure de sanction contre le pays dirigé par Viktor Orban. Cela en raison des menaces qu'il fait peser sur les valeurs fondamentales de l'UE. Il est question de violation de la démocratie et des droits de l'homme, concrètement de l'indépendance de la justice, de la liberté des médias, de la liberté académique, ou encore du sort fait aux migrants et à ceux qui leur portent assistance. La Hongrie contestera lundi cette mise en cause, mais Viktor Orban a déjà dit ceci à Strasbourg.
Nous ne céderons pas au chantage, la Hongrie défendra ses frontières et elle défendra ses droits, y compris contre vous s'il le faut.
Elcio, à la rédaction brésilienne, comment avez-vous abordé cette décision du Parlement européen?
On a suivi de très près cette décision historique sur l'ouverture de cette procédure contre Budapest pour grave violation des droits fondamentaux, des valeurs, comme vous avez évoqué. Il y a un intérêt pour mieux comprendre en fait les enjeux d'une telle décision et la question de l'immigration apparaît au cœur du débat. On rappelle qu'à la veille du vote, le chef du gouvernement, Viktor Orban, avait annoncé que son pays n'allait pas céder au pression des forces pro-migrants et après la votation, rappelons que les chanceliers hongrois estimaient aussi que la décision était une vengeance des politiques pro-immigration contre l'Hongrie.
Et il faut dire aussi que ce n'est pas la première fois que l'Union européenne engage une procédure contre un pays membre.
Non, en décembre dernier, après 2 ans d'alerte, la Commission européenne a entamé une procédure des sanctions contre la Pologne. Bruxelles reste préoccupée par l'état de droit dans ces pays, avec le manque d'indépendance des médias, des tribunaux polonais, après plusieurs changement de la législation nationale, justement après l'ascension au pouvoir du parti conservateur Loi et Justice. Et pour beaucoup d'Européens, des autorités, l'Hongrie suit le même chemin que la Pologne avec des politiques contre les valeurs de l'Union européenne.
Pourtant, Pizemam, le Premier ministre hongrois juge cette sanction sans danger pour son pays.
Oui, c'est vrai. Monsieur Orban a estimé aujourd'hui, lors d'une allocution à la radio, que ce type de procédure, à la fin, il n'y a pas de sanction, donc il n'y a pas de danger pour le pays. Pour lui, ce vote au Parlement de Strasbourg, mercredi dernier, n'était qu'une tentative d'affaiblir la position de la Hongrie en tant que symbole de la résistance à la migration. Donc effectivement, si l'article 7 a été déclenché par le Parlement européen, mais la balle est maintenant dans le camp du Conseil européen. Les pays membres doivent se mettre d'accord pour la poursuite de cette procédure de sanction. Or, il faut au moins une majorité de 4/5, à savoir 23 pays sur 28, ce qui n'est pas facile à obtenir. Donc, il est toujours très délicat que les pays membres pointent le doigt sur le voisin, par peur que celui-ci fasse le même en retour. L'Italie, la Pologne vont sûrement voter contre cette sanction.
Alors on verra bien, quoi qu'il en soit, Pizet, cette sanction du Parlement européen, en tout cas cette polémique, va sans doute renforcer le clivage entre pro et anti-immigration à l'approche des élections européennes.
Oui, c'est vrai. La vague de populisme d'extrême droite n'est jamais aussi flagrante en Europe actuellement. Cette sanction va renforcer le camp des populistes dans la position anti-européenne, anti-immigration. De plus en plus, la prochaine campagne pour les élections européennes va s'apparenter à une lutte entre forces populistes et forces progressistes. Par ailleurs, Emmanuel Macron veut apparaître comme le leader des progressistes. En France, le Front National, devenu Rassemblement National, reste une force majeure du champ politique français. Et selon une enquête d'IFOP fiduciale pour Paris Match, ce parti d'extrême droite français récolterait 17% d'intention de vote aux prochaines élections européennes.
Elcio, à vos auditeurs, vous avez proposé une analyse plus large de ce qui se passe en Europe avec les gouvernements considérés comme populistes et la montée de l'extrême droite.
La décision du Parlement européen, donc, met en l'évidence la disposition des autorités européennes de lutter contre les gouvernements et les mouvements qui menacent les valeurs partagées par les pays membres de l'Union européenne. Donc, le politologue Alfredo Valadão, qui est professeur à sciences politiques ici à Paris, notre chroniqueur à la rédaction brésilienne, la question de l'immigration au cœur de la montée des extrémismes menace l'intégration européenne. Je vous propose de l'écouter.
Hoje, qualquer incidente envolvendo um imigrante repercute na Europa inteira e alimenta todo tipo de extremismo chauvinista.
Alors, que vous a-t-il expliqué, Alfredo Valadão?
Donc, il a dit qu'en Europe, l'immigration est un prétexte, un bouc émissaire pour créer la peur, les ressentiments qui touchent surtout des populations marginalisées qui n'arrivent pas à suivre les évolutions de la société contemporaine. Aujourd'hui, tout incident impliquant un migrant a des répercussions dans toute l'Europe et nourrit toutes sortes d'extrémismes chauvins. Selon Valadão, il suffit de regarder les élections législatives en Suède récemment, probablement les pays européens les plus tolérants, selon lui, où l'ancien parti néo-nazi SD a gagné 18% des voix. Aujourd'hui, les populistes d'extrême droite partagent les pouvoirs donc en Autriche, en Italie, en Hongrie ou en Norvège. Donc, pour les politologues, Alfredo Valadão, une sorte de climat d'hystérie sociale s'installe et provoque le déclin et la fragmentation des partis traditionnels ici en Europe. Pour lui, il y a un vrai risque de division au sein de l'Union européenne. Il faut que l'Europe réagisse. Selon Valadão, les élections pour le Parlement européen l'année prochaine, 2019, vont démontrer si les citoyens européens vont voter pour les représentants d'une Europe plus ouverte, plus forte et unie, ou le contraire, une Europe plus fermée et affaiblie.
Ouais, c'est là tout l'enjeu de ces élections européennes l'année prochaine. Raphaël Morane, la presse latino-américaine rapporte régulièrement les faits qui concernent les questions migratoires en Europe, oui, ainsi que la montée des partis xénophobes dans l'UE.
Oui, récemment, c'est la décision du gouvernement hongrois de limiter les distributions alimentaires aux demandeurs d'asile dans les centres de rétention qui a retenu l'attention de la presse en Amérique latine. Le quotidien argentin Clarín, par exemple, notait que cette privation de nourriture s'apparentait en fait à une nouvelle tactique du gouvernement de Viktor Orban pour faire fuir les réfugiés de son pays. Le quotidien chilien La Tercera est qualifié Orban de voisin gênant et méprisé de l'Union européenne. Le journal chilien rappelle que le gouvernement Orban encadre de plus en plus strictement la presse, les ONG, la justice, c'est précisément ce que lui reproche le Parlement européen. Et l'hebdomadaire d'investigation mexicain Proceso a lui fait le compte cet été des pays européens où les partis d'extrême droite arrivent en deuxième position aux élections, voire au gouvernement, comme ce que vous avez cité, Elcio Ramalho. Eh bien, cette liste, elle inclut l'Italie, l'Autriche, la Hongrie, l'Allemagne, les Pays-Bas, la France, elle s'allonge.
Pizet, votre rédaction, la rédaction cambodgienne, s'est intéressée à une enquête d'IFOP pour Agissez Europe qui montre que la majorité des Français est consciente de l'impact du populisme sur la démocratie.
Oui, Philippe, cette enquête, l'IFOP Agissez Europe, publiée hier, montre que 52% des Français considèrent qu'avec la montée des populistes, la démocratie en France est devenue plus fragile. Les causes de la montée du populisme sont bien identifiées dans cette enquête. D'abord, l'immigration, elle représente 45%, mais aussi la dégradation des conditions de vie, pouvoir d'achat, logement, accès à la sécurité sociale, etc. Donc, plus largement, le populisme en Europe prospère si la crise du résultat des gouvernements nationaux et de l'Europe qui ne sont pas assez efficaces pour régler les problèmes.
Voilà pour cette enquête IFOP. Raphaël, à la rédaction Amérique latine, vous êtes fait l'écho d'une autre publication, une étude de l'Institut démographique français, l'INED, sur la migration africaine vers l'Europe.
Oui, c'est une étude qui vient contredire le livre du journaliste spécialiste de l'Afrique, Stephen Smith, publié au début de l'année. Alors le titre de ce livre, c'est « La ruée vers l'Europe, la jeune Afrique en route pour le vieux continent ». Et comme l'indique le titre, le livre tente de démontrer que la pression démographique de l'Afrique subsaharienne dans les 25 prochaines années pourrait pousser beaucoup de jeunes africains à prendre le chemin de l'exil vers l'Europe.
Et l'étude de l'INED est plus mesurée.
Voilà, exactement. L'INED considère que la population migrante subsaharienne va certes doubler en France, par exemple, mais elle passerait de 1,4% aujourd'hui aujourd'hui à 2,9% de la population française d'ici 2050. Pas de quoi donc de parler de ruée vers l'Europe comme le laissait entendre cette étude de Stephen Smith.
Et vous avez publié ces chiffres sur votre page Facebook.
Oui, ça fait beaucoup réagir ce genre d'article sur notre page Facebook avec beaucoup de commentaires outranciers, racistes même parfois, en tout cas majoritairement contre l'immigration.
Vous écoutez Accent du Monde sur Radio France Internationale.
20 degrés Paris.
Accent du Monde. Philippe Le Caplain.
Intéressons-nous maintenant à des sujets particulièrement traités par les rédactions en langues étrangères de RFI. Commençons par la rédaction Amérique latine qui s'est attachée notamment à la crise au Nicaragua. Rappelons qu'un mouvement social contre la réforme des retraites au mois d'avril a déclenché une vaste répression du gouvernement de Daniel Ortega. Le pouvoir s'en prend maintenant au chef du mouvement de contestation et Rafael Morán. Parmi les gens qui sont victimes de cette répression, il y a une étudiante. Elle s'appelle Amaya Coppens.
Oui, Amaya Coppens a 23 ans. Elle est étudiante en médecine et elle a été arrêtée cette semaine au domicile là où elle habitait, dans le nord-ouest du pays. Et pendant 2 jours, sa famille n'a pas eu de nouvelles d'elle. Et hier, les autorités l'ont accusée de terrorisme avec d'autres étudiants en raison de leur participation à des manifestations d'opposition. Alors la mère d'Amaya Coppens, Carla Zamora, que nous avons eue hier soir au téléphone, nous explique que l'arrestation de sa fille est emblématique de la situation au Nicaragua. On l'écoute.
Después de que el gobierno decretó que iba a hacer una limpieza, ¿verdad? Es decir, estamos en la tercera etapa de la represión.
Alors, qu'a-t-elle dit au micro de RFI?
Elle explique que sa fille est incarcérée dans la prison d'El Chipote, où certains détenus pourraient avoir été torturés. Donc, il y a vraiment beaucoup d'inquiétude autour de son sort. Sa famille a demandé l'assistance consulaire de la Belgique, parce que la jeune fille possède la double nationalité nicaraguayenne et belge. Sa mère, que le gouvernement explique que le gouvernement sandiniste de Daniel Ortega est passé à une troisième étape de la répression. Il s'en est d'abord pris aux manifestants. Ensuite, les forces de l'ordre et les paramilitaires ont levé les barrages routiers qui paralysaient le pays. Et cette troisième étape, donc, consiste à incarcérer, à ce que la répression s'abatte sur les figures du mouvement social qui sont surtout des étudiants. Beaucoup se sont d'ailleurs exilés, ont quitté le pays.
Oui, parce que le régime de Daniel Ortega ne veut absolument pas plier face à la pression de la rue.
Il y a eu quand même une médiation avec l'Église catholique qui a été mise en place. L'opposition demande, la principale revendication, c'est la tenue d'élections anticipées et bien sûr la fin de la répression. Une répression très dure. Plusieurs ONG dénombrent pas moins de 300 morts et 2000 blessés depuis le mois d'avril. Le pouvoir conteste ce bilan. D'ailleurs, à RFI, nous avons reçu l'ambassadrice du Nicaragua en France, Ruth Tapia. Alors selon elle, et c'est la ligne que défend le président Ortega aussi, le rapport de l'ONU, les chiffres de l'ONU et des ONG sont biaisés. Il n'y a pas eu 300 morts, mais 198. Le pouvoir ne lâche rien. Il a d'ailleurs expulsé, il y a très peu de temps, la délégation du commissariat aux droits de l'homme de l'ONU. Les opposants considèrent donc que le régime bascule petit à petit dans la dictature.
Rafael Morán, de la rédaction Amérique latine de Radio France Internationale. Dans 3 semaines, les Brésiliens se rendront aux urnes pour le premier tour de l'élection présidentielle et cette semaine, la campagne électorale a gagné une nouvelle dynamique avec l'annonce officielle du fait que Fernando Haddad sera le candidat du Parti des Travailleurs en remplacement de l'ancien président Lula. Et puis il y a les récents sondages qui montrent une percée du candidat Bolsonaro, poignardé la semaine dernière lors d'un meeting. Alors Elcio Ramalho, commençons par l'officialisation de Fernando Haddad comme candidat du PT à l'élection présidentielle. Cela n'a pas été une surprise.
Loin de là. En fait, il était colistier de Lula. L'annonce a été faite en début de semaine, mardi précisément. Donc la date limite donnée par la justice au PT, Parti des Travailleurs, pour présenter les remplaçants de Lula. On rappelle que l'ancien président purge une peine de 12 ans de prison pour corruption, blanchiment d'argent, donc il est inéligible. Il a essayé plusieurs recours, mais ça n'a pas marché. Et Lula, donc, a été obligé de jeter l'éponge, mais dans une lettre
rendu public,
il a affiché tout son soutien à son remplaçant.
Alors, c'est une décision attendue, vous le disiez, pour autant, elle est sévèrement critiquée.
Parce que plusieurs spécialistes estiment que cette décision d'officialiser Fernando Haddad est tardive, certes. certains parlent même d'un suicide politique du PT, peut-être c'est un peu exagéré, mais j'ai eu l'occasion de parler avec le politologue David Fleischer. Il est professeur émérite à l'Université de Brasilia et il a été particulièrement sévère à l'égard de l'ancien président. On va l'écouter.
Por imposição de Lula, quem manda e desmanda no partido, foi adiado essa troca.
Quelle est son analyse? Donc, il dit que Lula a imposé les tempos de cette décision parce que Lula a fait la pluie, les beaux temps au sein du Parti des travailleurs. Donc, sa décision, la décision de l'ancien président, a privé Fernando Haddad de faire campagne depuis plusieurs semaines comme candidat officiel. Donc, il n'a pas pu participer au premier débat des candidats à la présidentielle et pourtant de se faire connaître par un public plus large.
Et son grand défi, bien, c'est justement de convaincre l'immense électorat de Lula de voter pour lui.
C'est un défi énorme. Rappelons que Lula était donné favori dans tous les sondages, oui. Mais ce transfert de vote vers Haddad n'est pas tout à fait automatique selon plusieurs études. Haddad, ancien maire de São Paulo, est méconnu surtout dans le nord et nord-est du Brésil, c'est le fief électoral de Lula. Dans ces régions, certains ont du mal à prononcer Haddad, qui c'est un nom d'origine libanaise, ils l'appellent Andrade, c'est plus facile pour certains brésilien. Un peu anecdotique, mais révélateur de la difficulté de Fernando Haddad à s'imposer. Mais ces derniers jours, il a amélioré sa position dans les sondages. Il avait 4% en moyenne avant l'officialisation de son nom et maintenant, il a doublé son score.
Non, enfin, 8%, ça ne permet pas d'être élu ou même de passer le premier tour. En tout cas, ces sondages, justement, SEO. Il reste favorable au candidat Bolsonaro, qui a vu sa cote de popularité grimper après cette attaque dont on a largement parlé hein, sur RFI, attaque dont il a été victime la semaine dernière.
Oui, poignardé pendant un acte de campagne. Donc Jair Bolsonaro est convalescent à l'hôpital et hier il a subi une nouvelle chirurgie. Mais tout cela ne l'empêche pas de faire campagne. Des photos de lui allongées sur son lit à l'hôpital sont diffusées sur les réseaux sociaux. Il a donné même rendez-vous en direct avec ses électeurs. Mais les médecins demandent qu'il arrête de parler pour ne pas nuire encore davantage son état de santé, mais malgré tout cela, il est en tête des sondages avec 26%, donc il a grimpé de 4 points après
avec, donc 25-26% des intentions de vote. Et sur Romalo, qui avec la rédaction brésilienne suit de tout cela de très près. Et puis les Cambodgiens pleurent la disparition du docteur Beat Richner. Ce pédiatre suisse était très connu dans le pays et son décès a ému vos compatriotes, Pizemam. Pour quelle raison? Qui était-il?
Oui, Philippe, depuis quelques jours, le Cambodge pleure la disparition du docteur Beat Richner, le célèbre fondateur de la fondation Hôpital Kuntabupa. Le pédiatre s'est éteint le dimanche 9 septembre à Zurich, son pays natal, à l'âge de 71 ans. Après avoir travaillé pour la Croix-Rouge au Cambodge en 1974 jusqu'à l'arrivée des Khmer Rouges. Dr Richner était revenu au Cambodge en 1992 à la demande du roi Sihanouk pour reconstruire l'hôpital Kuntabupa. 25 ans d'existence, sa fondation compte aujourd'hui 5 hôpitaux qui soignent gratuitement 500 000 enfants cambodgiens par an. Donc 95% des enfants malades au Cambodge sont traités dans ces hôpitaux. Ces hôpitaux sont la référence pour tout le Cambodge où le système de santé publique est corrompu et peu compétent.
Et ce docteur Richner, bien, c'était un personnage hors du commun.
Oui, effectivement, c'était quelqu'un de très dévoué à sa cause, c'est soigner les enfants sans aucune contrepartie. Il est considéré par les Cambodgiens, surtout par les familles pauvres, comme le médecin divin avec un cœur grand comme l'univers. Et je vous propose d'écouter le témoignage de Dr. Hien Vu Thi, le sous-directeur de l'hôpital Kuntabupa.
Que vous a-t-il dit?
Alors, il disait que depuis 25 ans, Dr. Richner a été au Cambodge en permanence. Il ne prenait jamais du temps pour lui, pour se reposer ou passer des vacances. À 6h du matin, il arrivait déjà à l'hôpital. Dans sa tête, il ne pense qu'aux enfants hospitalisés. Même vers la fin où sa santé était très fragile, sa famille suisse avait eu du mal à le convaincre pour rentrer au pays.
Et c'était donc un grand pédiatre, également un violoncelliste très doué. Il donnait des concerts d'ailleurs dans ses différents hôpitaux. Je propose d'écouter un petit extrait où Beato Cello jouait Bach. Quand Bach raisonnait donc au Cambodge par le biais de ce pédiatre, de ce docteur suisse. C'était Accent du Monde. Merci à vous tous pour votre attention.